à tous et bienvenue à Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma présentée par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission qui vous sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai comme complice aujourd'hui Françoise Witkowski. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean Witkowski, bonjour Jean.
Bonjour Jean, bonjour
tout le monde. Ce qui fait, si vous voulez bien compter, deux Françoise et deux Jean, donc faites attention, elles ne nous prenez pas forcément pour des schizophrènes. Nous voici à la veille donc du grand événement annuel du cinéma, je parle du Festival de Cannes qui se déroulera du 11 au 20 mai. Et comme l'an dernier, Chant contre Chant vous donne rendez-vous tous les jours à midi pendant toute sa durée pour une brève chronique sur les films de la compétition officielle. Ceci dit, Festival de Cannes ou pas, le cinéma continue et il y a toujours des films sur les écrans. Et comme d'habitude, nous en avons choisi trois pour la partie débat de cette émission. Tout d'abord, une sorte de thriller historique. Il s'agit de Fritz Bauer, un héros allemand, du réalisateur allemand Lars Kraume. Ensuite, nous parlerons d'un film dont le titre à lui seul est tout un programme, L'Avenir, de la réalisatrice française Mia Hansenlove. Et c'est avec un impressionnant film croate que nous terminerons. Il s'agit de Soleil de plomb, de Dalibor Mačanić. Nous allons commencer avec Fritz Bauer, un héros allemand, film donc de Lars Kraume. Bon, il est curieux de constater cette espèce de fil que l'on qui travaille actuellement tous le cinéma allemand, qui lui fait interroger sa mémoire et revisiter son passé terrible des années nuit et brouillard. Il y a eu ainsi Anna Arendt de Margaret von Trotta, il y a eu 2014, il y a eu Phoenix, réalisé par Christian Petzold en 2014, en 2015 il y a eu Amnesia, Barbet Schroeder y a interrogé le passé de sa mère allemande, en 2014 il y a eu aussi Le labyrinthe du silence, et curieusement ce film dont l'histoire se déroule en 1958, a pour personnage central un jeune procureur travaillant sous les ordres d'un certain procureur général nommé Fritz Bauer. Et c'est ce même Fritz Bauer qu'on retrouve aujourd'hui dans le film de Lars Kraume. Mais un Fritz Bauer plus jeune d'un an quand nous sommes en 1957. Mais Françoise, est-ce qu'il s'agit de la même histoire ?
En tout cas, il s'agit bien de la même quête fiévreuse de la vérité, de la même exigence de justice qui anima des citoyens de la toute nouvelle RFA, on disait alors l'Allemagne de l'Ouest, dirigée par Adenauer, qui affichait très nettement sa volonté de tourner la page sur le récent passé nazi de son pays. Est-ce vraiment utile que tous les jeunes Allemands se demandent si leur père est un meurtrier, pouvait-on entendre à l'époque? Donc pas d'état d'âme, priorité au miracle économique et à la construction de l'Europe, sauf que certains ont décidé, eux, de contrer la loi du silence et de détourner les nazis qui s'étaient tranquillement recyclés dans le tissu administratif et politique de la nouvelle Allemagne.
Oui, et c'est là que Fritz Bauer joue un rôle essentiel et vient mettre son grain de sable.
Absolument, on est en 57 et dès l'ouverture de film, on voit ce juge, un procureur général à Francfort, qui apparaît comme un homme au bout du rouleau, conscient de son impuissance, de sa solitude, de l'absurdité de sa tâche. En effet, il vient juste d'avoir la preuve que Eichmann se cache sous un faux nom, Ricardo Clement, à Buenos Aires, depuis 10 ans. C'est Lothar Herrmann, un ancien détenu des camps, émigré lui-même en Argentine, qui écrit à Bauer qu'il a formellement reconnu l'officier nazi. L'urgence pour Bauer est donc de le faire capturer au plus vite, extrader et juger. Mais c'est la loi du silence qui règne partout. Il fallait absolument éviter des procès qui pouvaient en éclabousser un certain nombre et haut placés. Bauer se s'est espionné, il y a des dossiers qui disparaissent dans son bureau, et il n'a pas d'autre issue que d'aller en secret, en Israël, demander l'aide au Mossad, à qui il transmet bien sûr ses informations. Et c'est 3 ans plus tard qu'un commando du Mossad kidnappe Eichmann à Buenos Aires. Hélas, Eichmann ne sera pas jugé en Allemagne par des Allemands, comme Bauer le souhaitait tellement. Il sera extradé en Israël, jugé et exécuté à Jérusalem.
Oui, alors Bauer, dans ce film, il y a l'histoire de l'enquête, mais en plus, Bauer se découvre un allié dans la personne du jeune juge Karl Angermann. Oui. Il semble que ce soit un personnage de fiction.
D'après ce que j'ai lu, oui, c'est un personnage de fiction, mais semble-t-il inspiré de figures réelles. À mes yeux, ce personnage est un peu le maillon faible du film. Autant l'acteur Burkhard Klausner incarne Bauer de façon magistrale d'un bout à l'autre du film, autant le personnage de Karl Angermann m'a paru fade, sans nécessité réelle. Époux sans histoire, croit-on tout d'abord, mais en fait, il fréquente un bar louche qui s'appelle le Coquette, où se côtoient homosexuels et travestis. C'est un parfait moyen de pression pour ses adversaires. L'homosexualité, en effet, a été réprimée encore très sévèrement dans l'Allemagne de Adenauer, selon une loi nazie qui était toujours en vigueur. Et c'est un ressort dramatique dans le film qui ne m'a pas vraiment convaincu.
Alors, si ce ressort ne t'a pas vraiment convaincu, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce film ?
La leçon d'histoire, hein, alerte, précise, documentée, mais plus encore, j'ai aimé que ce film pose des questions de morale politique, plus exactement d'éthique, le prix de la vérité. J'ai aimé le courage de ces deux hommes qui n'hésitent pas à se mettre en danger au nom de leurs convictions et de leur exigence de justice. Et puis j'ai pensé à Anna Arendt, à savoir la banalité du mal. Tous ces anciens nazis, tranquillement recyclés dans la vie quotidienne de la Nouvelle-Allemagne, ni vus ni connus, des êtres totalement dépourvus de la faculté de penser, de simples exécuteurs d'ordre. Et puis j'ai vu dans ce film, et ça m'a bien plu, un plaidoyer contre l'oubli et même une victoire possible de la démocratie contre la loi du silence.
Je vois ce que tu as aimé pas. Mais toi, Jean, qu'est-ce que tu as retenu dans ce film ? Est-ce que c'est son côté éthique comme Françoise ou bien son contenu cinématographique ? Tu n'as rien retenu du tout.
C'est un film intéressant parce que il aborde le sujet quand même très délicat de la dénazification de l'Allemagne après la guerre. Par contre, j'ai trouvé que c'était... Le film s'encombrait parfois de choses un peu inutiles.
Oui.
Par exemple, l'espèce de suicide bizarre du début de Fritz Bauer.
C'est pas un suicide, en fait.
Non, on sait pas.
On sait pas très bien.
Il a pris de l'alcool et des somnifères, on le sent au bout du rouleau. Quoi.
Oui,
il en
oui, mais...
Oui, bon. c'est surligné.
C'est un peu surligné, ouais. et ça débouche sur rien.
Et ça ajoute rien.
De même, Bauer reçoit des lettres de menace parce qu'il est juif. Là aussi, ça débouche rien. Et puis la pédératie, enfin de l'eau de son assistant.
De Karl Lagerfeld.
De Karl Lagerfeld. Bon, c'est un peu lourd.
C'est un peu lourd.
Ouais. Enfin, c'est dommage parce que ça dénature un peu le fondement du film qui est quand même très fort.
Je crois que ça se veut accrocheur. Ça, puis voilà, ça se veut accrocheur.
On
va mettre une scène comme ça.
Un peu inutilement.
Et toi, François,
oui, moi, je m'associe à ce qui a été dit, mais j'ai trouvé quand même très intéressant de revenir sur cet homme qui a traqué Eichmann et de montrer que certains individus ont assez de courage pour défendre leurs opinions seuls contre tous.
Oui.
Voilà. Et puis de se replonger dans la période de l'après-guerre en Allemagne, de voir le mal qu'elle a eu à surmonter l'idéologie nazie qui était présente dans tous les rouages de l'administration. Mais le film est tout de même agréable à regarder, bien mené, bien joué, à mon avis, et d'autant qu'il mêle la vie privée des individus à la grande histoire. C'est bon.
Bien joué, parce que vraiment, je trouve que l'acteur qui incarne Fritz Bauer est remarquable. Il est crédible d'un bout à l'autre, il est émouvant, il est juste.
Et c'est lui qui porte le film.
C'est lui, sans lui, le film n'existe pas.
Le reste plombe le film. Tout ce qui a été rajouté, etc., ça plombe le film.
C'est un peu dommage.
C'est un peu dommage.
Ça reste quand même bien.
Lui, il est remarquable. C'est un acteur que j'ai beaucoup apprécié.
Et puis, c'est vrai, on a l'impression que c'est un film où il y a deux trames, quoi. Il y a la trame de l'enquête, alors ça c'est très bien foutu.
Mm-hmm.
Et puis, la relation qu'il y a entre Karl Lagerfeld et Fritz Bauer, qui n'ajoute rien.
Oui,
il y a des sous-entendus sur l'homosexualité de Fritz Bauer. On se demande qu'est-ce que ça vient faire dans ce film.
Ils ont peut-être été
film.
Influencés par le cabaret, les années 20 en Allemagne. Enfin, on sent un petit peu cette influence.
Oui, tout à fait. Ouais.
J'ai lu que Fritz Bauer était présumé homosexuel. Alors, est-ce que ça
lui
a
aussi
été... Il était présumé homosexuel, voilà.
Il est sans sa femme.
Pardon ?
Il est sans sa femme, qui est restée en Hollande.
Oui, c'est ça, sa femme est d'ailleurs... Bon, je sais pas, c'est un peu anecdotique, ça n'a pas un grand intérêt,
non,
finalement.
Non.
Oui.
Et puis, on comprend pas très bien quel est le piège dans lequel on fait tomber Karl Lagerfeld, parce que finalement, quand on lui montre les photos, quand on lui dit, ou on te montre tes photos, bien tu dénonces ton procureur, c'est trop tard, puisque Eichmann est déjà pris.
Non, c'est pas trop tard.
L'idée, c'est de le faire juger en Allemagne, c'est ça qui est important après.
Oui, mais l'idée également, c'est de faire tomber Fritz Bauer comme un traître, parce que il a eu des rapports secrets
avec le Mossad.
Donc l'idée, c'était de lui dire, si tu dénonces Bauer, heures, toi t'es libre, sinon tu vas en taule. Ouais. L'idée, c'est de faire tomber Fritz Bauer. Et ils n'ont pas réussi à le faire tomber. Et d'ailleurs, il a été reconnu 10 ans après comme initiateur en plus des procès d'Auschwitz, où alors là, 22 prévenus ont été jugés, 22 sur 6 000.
Ouais.
Qui ont travaillé dans le camp d'Auschwitz et qui ont été à différents niveaux des voilà.
Non.
Mais c'est très curieux, ce film qui vient après le labyrinthe du silence, alors qu'en fait, il y a une espèce d'inversion.
Il
aurait fallu faire celui-là avant le labyrinthe du silence. Donc c'est un peu la suite.
C'est quand même bien.
C'est quand même
un film qui est largement à voir parce que ça, ne serait-ce que par cette façon de revenir sur le passé, et, alors qu'on a tellement de mal à revenir souvent sur le passé.
Ah oui. Alors on va parler de l'avenir maintenant, après le passé.
Mais on va continuer avec un film français cette fois, L'Avenir, réalisé par Mia Hansen-Love. Alors Mia Hansen-Love, elle est jeune, elle est discrète, elle n'a que 35 ans, mais elle a déjà son actif, une œuvre largement reconnue. Elle est considérée dès à présent comme un des cinéastes français importants de sa génération. Elle a commencé comme actrice en tenant le premier rôle en 1998 dans le film de Olivia Sayas, fin août, début septembre. En 2007, elle passe derrière la caméra en réalisant « Tout est pardonné », puis ce sera « Le pire de mes enfants » en 2009, « Un amour de jeunesse » en 2010, « Eden » en 2014. Et elle trouve enfin la consécration avec « L'Avenir » pour lequel elle reçoit au Festival de Berlin l'Ours d'argent de la meilleure réalisatrice. Alors, bon, Jean, est-ce que toi tu partages l'engouement général pour ce film dont l'histoire, finalement, est quand même très simple comme déroulement.
Oui, c'est une histoire simple, mais prenante. Le film s'ouvre sur Nathalie, professeure de philosophie, se rendant sur une île de Bretagne avec ses enfants et son mari, et corrigeant ses copies jusqu'au dernier moment sur le bateau, alors que sur le pont, sa famille profite du paysage, du vent et des embruns. La balade qui s'ensuit est faite de dialogues cultivés et d'harmonie. Puis le récit fait un bond en avant pour retrouver tout ce petit monde une dizaine d'années plus tard. Enfants envolés du nid, Nathalie, la bonne cinquantaine, professeure comme son mari, est classique en diable. Jadis communiste, elle n'a de cesse dans ses cours d'invoquer Jean-Jacques Rousseau et Vladimir Vengelievitch pour, dit-elle, donner des armes à des jeunes gens. À côté d'elle, il y a la grève des lycéens pour leur retraite, déjà, et Sarkozy à la télévision. Mais elle est complètement en dehors du coup. Elle est aussi accaparée par sa mère, interprétée par la toujours étonnante Edith Scob, qui ne supporte plus la solitude et l'appelle en pleine nuit ou fait venir les pompiers à tout bout de champ. Elle accepte tout cela avec un calme olympien, sûre d'elle-même et de la pérennité de son mode de vie.
Oui, c'est dans ce ciel apparemment si serein que le tonnerre va éclater.
Oui, absolument, car en très peu de temps, tous ses repères vont voler en éclats. « Moi qui croyais que tu m'aimerais toujours, » dit Nathalie, lorsque son mari, depuis près de 30 ans, lui annonce qu'il a une liaison et va la quitter. Il y a donc l'avant et l'après-rupture. À première vue, il semble qu'il y ait bien peu de différence entre la première et la deuxième époque, car Nathalie ne bouge pas, elle tient bon. Lorsqu'elle évoque sa liberté retrouvée, totale, extraordinaire, elle n'y croit pas elle-même, mais elle va s'employer à rester dans sa ligne. Ses chagrins s'expriment lorsqu'elle est seule ou levée contre le vieux chat hérité de sa mère. Des rues de Paris au paysage du Vercors, où elle va retrouver son ancien élève, Fabien, agrégé de philo, parti faire du fromage de chèvre, et où elle se sent comme un cheveu sur la soupe. Nathalie, bon petit soldat, avance, trottine, court, elle monte dans des voitures, des bus, des trains, elle fonctionne et cache sa fêlure profonde. Mais ici, pas de dépression, de cris, d'hystérie, tout est mezzo voce, entre la gravité et la légèreté. Aïe, crie-t-elle, lorsque surprise, elle veut jeter, rageuse, un bouquet laissé sur la table de l'appartement par son mari volage. Elle se pique aux épines. Oui, la vie fait mal et elle fait du bien aussi. C'est ce que raconte la jeune Mia Hansen-Love avec une acuité et une justesse de vieux sage. Peut-être à l'extrême fin du film, Nathalie retrouvera sa sérénité avec son petit-fils et son rôle de grand-mère.
Oui, alors je crois que peut-être à ce moment-là, il faut peut-être parler un peu d'Isabelle Huppert, parce que le film repose beaucoup sur elle.
Ah oui, absolument. Nathalie, c'est Isabelle Huppert. Gracile et tangible, fonceuse et rapide, cassante et exigeante, dont on jurerait que le film parle d'elle, tant la comédienne habite le personnage et nous donne toutes ces nuances délicates qu'elle apporte toujours à ses personnages. La musique aussi joue un grand rôle dans ce film. La première partie, celle de la certitude, est accompagnée d'un leader de Schubert, La deuxième, celle des doutes et de la perturbation, est caractérisée par la musique folk de Woody Guthrie. Et enfin, la conclusion du film, et l'avenir assuré, est accompagnée par « À la claire fontaine », chantée par Nathalie à son petit-fils.
Oui, là, tu viens de parler de la musique de la certitude, puis celle du doute. Françoise Lowe, pour préciser, hein, est-ce que tu dirais que c'est un film sur le passage de la certitude au doute?
Peut-être, oui. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, ce qui m'a touchée dans le film, c'est que c'est un film sur la perte. Comment peut-on gérer la perte? Et c'est un thème qui m'a paru bien traité par le film. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Nathalie qui, face à la perte, ne devient pas hystérique, n'en perd pas la parole, ne se roule pas par terre, ne pleure pas véritablement, mais voir comment, en y réfléchissant, le rôle de la pensée, de l'intelligence. J'ai énormément aimé ce personnage d'Isabelle Huppert. Je pense que c'est un... Je voudrais pas être trop carré, mais il me semble que c'est un film de femme. Qu'on le voit différemment, pour en avoir discuté avec différentes personnes, on le voit différemment quand on est femme et quand on est homme. Moi, je l'ai ressenti comme un film de femme face à la perte, et j'ai été très touchée, même s'il y a des bémols, j'ai des bémols, mais très touchée par cette analyse de la perte et du deuil amoureux. Du deuil tout court, de la perte.
Et toi, Françoise, l'autre Françoise, est-ce que tu dirais aussi que c'est un film de femme?
Ah oui, complètement. J'ai ressenti exactement la même chose. J'ai beaucoup aimé cette manière douce de raconter cette histoire de notre époque. Et le portrait d'une intellectuelle, c'est pas souvent qu'on fait le portrait d'une intellectuelle au cinéma.
Non, le mot est devenu infamant maintenant, c'est pourquoi on est content de voir qu'il peut ne pas l'être. C'est rare, donc prenons-le, c'est un petit trésor.
Donc cette femme confrontée à de multiples responsabilités, le jeu d'Isabelle Huppert est léger, naturel, tout est fluide, sans heurts, malgré les ruptures ici et là. Et effectivement, moi aussi, j'ai trouvé que pour montrer une femme seule face au vertige de la liberté, un regard féminin comme celui de Mia Hansen-Love était le bienvenu. Mm-hmm. Et bon, j'ai pensé beaucoup à Mia Madre, qui reprenait un petit peu les mêmes thèmes. Nanni Moretti dressait aussi le portrait d'une femme partagée entre son travail, sa mère malade, ses hommes, ses enfants. Le contexte collectif n'était pas les étudiants, là. C'était le tournage d'un film sur une manifestation.
Mais voilà. Il y a l'association du monde du travail
et
du monde intime.
Du collectif et de l'individuel.
Oui,
voilà.
Oui. moi, je ne sais pas, parce que c'est un film de femme, je n'ai pas du tout aimé ce film. Je suis d'accord à ce que vous avez dit, l'une et l'autre, hein. Mais je trouve que ça reste beaucoup plus dans le domaine de l'intention que dans le domaine du pratique. Enfin, moi, j'ai trouvé ce film très banal. J'ai trouvé que tout ce qui était montré avait déjà été attendu, vu, filmé des tas de fois. Quand on voit la grève des étudiants au début, et les slogans, etc., ça, on le connaît 10 fois. Le professeur de philo, tel qu'il est montré, on le connaît 10 fois. Et on a l'impression qu'on ne peut pas montrer un professeur de philo sans aussitôt lui faire discuter des idées. Enfin, bref. Et puis ensuite, évidemment, il y a inévitablement les longues citations de Rousseau, Pascal, Diaghilevitch, Lévinas. Enfin, je trouve que c'est une somme de lieux communs, voilà. Ah, je crois que je vais me faire écharper,
là. Là, tu vas te faire écharper parce que, en fait, le vrai truc qui change, c'est la façon dont elle appréhende sa déconvenue, enfin, sa perte amoureuse. C'est assez rare de voir un personnage qui réagit de cette façon, d'une façon tellement... intériorisé, c'est très étonnant comme.
Puis pas seulement la perte amoureuse, il y a sa maison d'édition, elle y tient quand même beaucoup. Elle préparait des bouquins de philo et on lui dit, écoutez, c'est maintenant c'est ringard, au bouquin on va trouver autre chose, il faut mettre de la couleur et des dessins pour faire de la philo.
Et la maison de Bretagne.
Et la maison de Bretagne, elle perd.
Comment vivre quand tout s'écroule autour de vous et c'est intéressant.
Mais ça c'est très le thème est très intéressant, mais ce critique c'est pas le thème, je trouve ça passionnant parce que c'est un sujet qui nous concerne tous à un moment donné de la vie.
C'est le thème.
Ça s'écroule, comment repartir? Elle découvre en plus la liberté. Bon, ce côté-là, ça, je suis d'accord. C'est beaucoup plus la façon dont c'est fait. Je sais pas.
Il y a un truc qui
me paraît mal. Le comble du comble, c'est Fabien, c'est comme ses copains allemands. Enfin, on avait déjà vu les 68 heures, le Larzac. et les chaînes,
c'est pas l'Alsace, c'est
le normalien, le Vercors et les vaches. Non, c'est,
et le chat.
Ah, le chat, chat génial.
Le chat, j'ai beaucoup aimé. C'est le chat préféré dans le film.
Je suis d'accord que le Vercors, c'est le maillon faible. On l'a vu 20 fois, on s'est dit bon, c'est dommage. Et il y a un deuxième maillon faible, enfin, pour moi, bien que j'ai tellement aimé ce film, mais c'est Isabelle Huppert qui berce son petit-fils. En lui chantant à la Clairefontaine et on dit le thème l'avenir. Ah non, on va pas en arriver là. Voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup déçu.
Ah oui, toutes les chaumières ont pleuré là, hein, c'est un film.
Bah, c'est fait pour ça.
C'est fait pour ça, voilà. Donc là aussi un peu de manipulation, voilà, moi.
Non, mais c'est un film qui s'appelle L'Avenir et je trouve que le titre est intéressant pour quelqu'un qui vient de tout perdre.
Oui.
Puis un rythme intéressant, c'est assez léger, oui.
Et puis quand on aime Isabelle Huppert, je ne m'en cacherai pas. On a du plaisir à voir le film.
C'est une très grande actrice.
Pour moi, c'est un point négatif du film encore. J'adore Isabelle Huppert. Il y a trop d'Isabelle Huppert. Est-ce qu'on peut voir un film sans Isabelle Huppert? Ça semble devenir pratiquement possible. Même Cannes, je ne sais pas encore dans combien de films elle joue encore à Cannes.
Ben écoute, nous, c'est le contraire parce que moi, j'aime pas Isabelle Huppert, mais là, je l'ai bien aimé. C'est le contraire de vous.
Bon, mais ça, c'est bien ça. Ouais.
Mais bon, enfin, un petit mot, en fait, tu as déjà dit, bon, je me souviens, souligne la performance d'Edith Scob. Je trouve que dans le rôle de la mère, un peu folle, c'est vraiment.
Elle a cette fragilité qui convient bien au personnage.
Oui. Puis complètement loufoque.
Oui.
Quand elle dit, oh, elle était mignon, le petit pompier. Et puis quelle présence, elle a.
Et quand elle veut passer un casting pour l'émission, je trouve, là, c'est des moments que je trouve.
Oui. Il y a deux points positifs, quand même, dans ce film. Il y a le chat et la.
Et le thème aussi. Le thème, je trouve ça très, comme thème extrêmement.
Le chat joue extrêmement très bien. Ça. Le chat joue
il est formidable.
Ouais. Surtout que je trouve très astucieux l'idée de le faire en quelque sorte représenter le passé finalement.
Oui, absolument.
Parce qu'en donnant le chat, elle se débarrasse de son passé. Et ça, je trouve que c'est quand même très bien vu.
Bon, c'est bien quand même.
Eh bien voilà, on n'est pas tout à fait d'accord, mais quand même, on trouve quand même des points de concert. Reprendre avec Soleil de plomb du réalisateur croate Dalibor Matanić, né à Zagreb en 1975. Alors, enfin, il y a certains parallélismes entre Dalibor Matanić et Emir Hüseynov. Ils appartiennent à la même génération. Ils sont tous les deux entrés en cinéma en 1998. Ils ont tous les deux été couronnés dans un grand festival. Emir Hüseynov à Berlin, Dalibor Matanić à Cannes, où il a reçu le prix du jury dans la sélection Un certain regard en 2015. Par contre, si l'œuvre de Mia Hansen-Love est bien connue, et puis c'est un peu normal parce que c'est une cinéaste française, il n'en est pas de même pour Dalibor Matanić, dont, malgré une filmographie importante, on a vu peu de choses en Europe, sinon un film réalisé en 2002 qui s'appelle Fine Dead Girls. D'où l'intérêt suscité par ce réalisateur, venu d'un pays mal connu, et auquel, malheureusement, nous associons le plus souvent des images de guerre et de destruction. Alors, François, est-ce que c'est le cas pour ce Soleil de plomb ?
Oui et non. Car Soleil de plomb raconte avant tout trois histoires d'amour dans l'ex-Yougoslavie. La première se produit peu avant que la guerre entre Serbes et Croates n'éclate en 1991. La deuxième période a lieu en 2001, après cette guerre des Balkans qui aura fait 300 000 morts. Et la troisième porte sur 2011. Ce sont donc trois moments pour parler d'amour et de guerre et dénoncer les ravages qu'entraînent les conflits armés. Mais en plus de ce propos universel, ce qui est particulièrement remarquable, c'est le style du réalisateur, son sens du cadrage et du rythme. Il porte un regard plein de respect, de tendresse sur les êtres, filmé très souvent en gros plan, et sur la nature environnante. Le film se passe en été, à la campagne, sous un soleil torride qui accentue l'intensité des passions et permet à la caméra de jouer avec la lumière et l'ombre de manière très poétique. L'idée de reprendre les mêmes acteurs tout au long des trois histoires confère au film une grande unité.
Mais alors, que voit-on de la guerre à proprement parler, puisqu'elle est toujours là, cette guerre?
Oui, mais il en est question directement dès le premier amour, avant la guerre, celui de l'amour de Yelena et de Ivan. Le film s'ouvre sur une image pacifique de deux jeunes en maillot de bain qui font des projets d'avenir au bord d'un lac. Mais peu après se profilent des camions militaires sur une route. Champ contre champ, le metteur en scène montre d'un côté l'érotisme et la joie de vivre en temps de paix, et de l'autre la raideur et l'angoisse des premiers soldats mobilisés. Une vieille femme énonce que le mal est de retour, mais personne n'y croit vraiment. Sans en révéler la fin, qui est poignante, disons que cette première histoire ouvre sur le début de la guerre en Yougoslavie, dont on ne verra pourtant jamais les combats. Car le réalisateur ne prend parti ni pour un camp ni pour l'autre. Les deux villages où vivent les amoureux ne sont jamais nommés, pas plus que les origines ethniques ou religieuses des uns et des autres ne sont précisées. Dans la deuxième époque, 2001, les traces de la guerre sont montrées avec un long travelling très éloquent sur les maisons détruites. La jeune Natacha, revenue avec sa mère dans la maison familiale en ruine, ne peut pardonner au camp ennemi la mort de son père et de son frère. Camp ennemi qui est incarné par le menuisier qui répare la maison hantée. L'une des plus belles scènes du film, une véritable scène d'anthologie, est celle où Natacha et Ante, qui rabotent une porte, se parlent, entre guillemets, par bruit interposé. C'est très émouvant et très bien fait. Et très bien joué. La troisième période, 2011, montre la reconstruction, y compris dans les têtes. Déjà, des blessures se sont refermées, mais pas toutes, et les jeunes font la fête avec alcool et drogue. Et la vie continue. La dernière image est celle d'une porte ouverte qui promet, dans des temps à venir, l'apaisement et la réconciliation.
Oui, alors il y a trois récits en fait. Hein. Mais est-ce qu'il y a des éléments récurrents entre ce récit qui crée l'unité, qui donne le sentiment que l'on a affaire à un seul film et pas à trois courts-métrages juxtaposés?
Le premier élément, c'est le soleil, d'où le titre, que l'on voit à toutes les heures du jour, de l'aube au crépuscule, qui s'introduit dans les maisons, que l'on voit sur un morceau de peau qui fait transpirer. Enveloppant le face-à-face amoureux, il apporte un souffle chaud, un paysage apaisant, la torpeur autour d'une buvette. Il marque la longueur d'une route entre deux villages. Et c'est comme si la région était pénétrée de la même tension interne qui anime les personnages. L'autre élément, ce sont les acteurs qui jouent d'une histoire à l'autre et qui sont excellents. Et il y a aussi le bain dans le lac, où les corps coupés en deux par la ligne de flottaison sont un moment de grande sensualité et d'amour de la vie. Il y a aussi la stridulation des insectes, les champs de blé, le cimetière et les humains qui éprouvent des sentiments, l'amour, la peur, la haine, et souffrent et finissent par se réconcilier.
Oui, ben merci Françoise, mais les éléments récurrents, ben, c'est aussi bien sûr hein, l'utilisation des mêmes acteurs dans les trois histoires. Hein. Jean, est-ce que toi tu étais convaincu par ce film, ces aspects très particuliers qui sont quand même...
J'ai été très 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 convaincu et très ému par ce film. Et je trouve qu'il a, sur le plan de la réalisation, il y a deux choses quand même qui sont tout à fait exceptionnelles. C'est le fait qu'il y ait trois histoires avec les mêmes personnages, ce qui donne une très très grande unité à ce film. Et puis en plus, c'est un film de guerre, sur la guerre, qu'on ne voit pas. Et ce film de guerre débouche quand même sur l'amour. Et ça, c'est très beau.
Oui, enfin, on en parlera peut-être, mais est-ce qu'il débouche sur l'amour? Enfin, je crois que là, justement, c'est un point avec lequel je n'ai pas du tout d'accord avec Françoise. Bon, je trouve que c'est un film profondément pessimiste. Mais toi, Françoise Lowe, alors.
sur l'amour, tu dis?
Jean dit que c'est un film qui débouche sur l'amour.
Pour moi, c'est un film noir aussi. J'en ai surtout ressenti retirer la souffrance. Cette idée de ces trois films sont comme un cycle qui montre que la souffrance engendre de la souffrance, et que les gens sont très, que l'amour est très dépourvu face à ces haines profondes enracinées depuis des décennies ou depuis des siècles. C'est un film qui m'a paru très très dur, vraiment très très dur. Et je crois que le titre déjà, inconsciemment, me conduisait vers le dur, parce que soleil de plomb, ce que j'ai retenu, moi, c'est pas soleil.
C'est le plomb.
Ouais, ouais. Et le plomb brûlant, incandescent, qui conduit à étouffer tout sous une chaleur absolument abominable. Et j'ai eu le sentiment que ce désir amoureux, qui devenait, enfin, fou, exacerbé, était recouvert d'une chape de plomb et explosait, en particulier, comme tu dis, dans le deuxième film, celui où, comment elle s'appelle, Natacha voit le jeune menuisier Ante, Et il y a cette séquence inouïe, il faut aller voir le film rien que pour ça, où Antti rabote son volet, et elle fait du bruit. Avec quoi?
Avec des verres, avec des cliquetis d'abord.
Et ça devient, ce bruit devient insoutenable, il est un peu l'idée de ce désir amoureux, mais exacerbé, qui va se terminer par une étreinte sauvage. Et j'ai trouvé cette scène d'une complètement inattendue, et d'un bout à l'autre, pour moi, le film a été inattendu. Ça, j'ai aimé.
Oui.
Il n'y a jamais du déjà vu.
C'est ça qui est très intéressant dans ce film.
C'est vrai que c'est un peu pessimiste parce que sans doute que les blessures sont toujours là en Yougoslavie et le réalisateur le sait.
Oui, puis on peut discuter sur cette fameuse porte qui reste entrouverte. Les de la bouteille à moitié pleine ou moitié vide.
Moi,
je pense que juste après la fin, il va y avoir un coup de vent et que la porte va être frappée. Elle va être terminée.
Non, parce que la première histoire, ça se termine par la mort de l'amour. La deuxième, c'est un amour qui ne peut pas aboutir parce qu'il y a encore trop de contraintes, de tensions. Et la troisième histoire se termine par un amour qui peut renaître. Donc c'est quand même optimiste, finalement.
Oui. Il y a quelque chose que je trouvais remarquable dans ce film, par rapport aux deux autres dont on vient de parler, je trouve que c'est l'écriture cinématographique. Je trouve que c'est remarquablement écrit cinématographiquement.
Ah, tout à fait.
Et bien souvent, moi, dans la façon de travailler sur les cadres, sur la lumière, etc., j'avais beaucoup pensé à Kieslowski. J'ai une espèce de rigueur. En particulier, effectivement, on revient toujours à cette seconde histoire, qui, sur le plan du cinéma, pour moi, c'est la plus belle. Mmh. Tu parlais de cette fameuse scène des bruits. Il y a aussi dans cette scène-là une utilisation de cette maison en ruine, utilisation des portes, des charpentes, des poutres, qui toujours fait des cadres extrêmement originaux et forts. Et puis, il y a un moment, une scène qui m'a frappé, c'est pas une scène, c'est une espèce de division de l'espace. D'un côté, il y a les deux chambres, il y a la chambre des femmes, et puis il y a la pièce où lui travaille en télétravail. La pièce des chambres est plongée dans une demi-obscurité à lumière chaude, et en télétravail à côté, dans une pièce très éclairée à lumière très froide. Je trouve que dans ce contraste,
c'est très bien filmé, et c'est très bien joué. En particulier, la jeune fille joue extrêmement bien, elle est pleine de vie, de sensualité.
C'est du très très bon cinéma.
C'est très très bon cinéma.
Et très original, parce qu'on a rarement vu ça quand même.
Pour moi, c'est un des meilleurs films des derniers mois.
Oui, c'est du très bon cinéma.
Alors, il y a une scène qui est, enfin, plutôt une scène de répétition, puisqu'on est dans les éléments récurrents, qui m'interroge quand même, c'est cette scène sous l'eau. Comment interpréter? Dans chacune des histoires, tu l'as dit, il y a des scènes qui sont filmées sous l'eau, puis la caméra monte, traverse la surface de l'eau et filme par l'extérieur. Il y a trois scènes aquatiques comme ça. Comment interpréter ça? Moi, ça me reste un peu.
C'est un peu un élément de thriller, parce qu'on craint qu'il se passe quelque chose, notamment dans la première, c'est tout au début.
On pense qu'elle va se noyer ou qu'il va
se passer quelque chose comme ça. Et voilà.
C'est le sous l'eau, c'est peut-être ce qui est menaçant, comme tu le dis. Et c'est peut-être ce qui est enterré, quelque chose qui fait peur, qui fait pas de bruit, qui nage entre les eaux. Oui, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu quelque chose.
Mais ce que tu veux, c'est que dans la première scène, il y a juste un personnage dans l'eau. Dans la deuxième, ils sont un couple. Et dans la troisième,
ils sont tous dedans.
Oui. Bon, alors on laisse ça aux exégètes.
Oui. De même, il y a le chien qui vont expliquer
ça.
Il y a le chien qui se balade.
Il y a la faune aussi. Il y a beaucoup d'animaux qui passent, des poules. En fait, c'est très riche et je pense qu'on pourrait le revoir plusieurs fois.
Oui, tout à fait, oui. Et trouver à chaque fois des choses nouvelles. Bien, ben on va passer au coup de cœur. Françoise, je crois que tu voulais nous parler de Julien Rapneau et de son film Rosalie Bloom.
Rosalie Bloom. Rapneau, dans ce premier film, nous raconte l'histoire de Vincent et de Rosalie, deux êtres doucement enlisés dans un quotidien bien réglé et sans saveur. Lui, Vincent, au bord de la quarantaine, est un fils à maman, l'insupportable maman qui habite juste à l'étage d'au-dessus, bien sûr, et d'où elle harcèle son fils jour et nuit. Et lui obtempère, faute de mieux. Vincent a hérité du salon de coiffure de son défunt papa. Il a une petite amie qui vit à Paris, mais qu'il n'a pas revue depuis 6 mois, qu'il ne reverra pas. Et c'est par hasard que Vincent va croiser Rosalie, la cinquantaine, épicière à Nevers. Épicerie ouverte le dimanche. Vincent croise le regard de Rosalie derrière de grosses lunettes à monture jaune. Tiens, presque les mêmes lunettes que celles de maman, se dit-on. Et il semble submergé par une émotion soudaine. On s'est déjà vu quelque part? Ah non, dit-elle, pas que je sache. Et commence alors une filature cocasse. Vincent la suit, la guette, veut tout savoir sur elle. Rosalie, de son côté, a repéré le manège, et elle fait suivre Vincent par sa jeune nièce, Aude, filature croisée. Rapneau s'est inspiré pour son film de la bande dessinée éponyme de Camille Jourdi, une BD en 3 tomes dont il va faire un film en 3 volets. Volet numéro 1, Vincent raconte sa vie et la filature qu'il mène. Volet numéro 2, c'est Aude qui explique comment sa tante Rosalie lui a demandé d'enquêter sur cet étrange jeune homme qu'il a su partout. Et dans le troisième volet, c'est Rosalie qui raconte. Là, c'est une histoire triste qui fait de ce film une comédie douce-amère, empreinte de gravité. On peut regretter quelques faiblesses de scénario, avoir le sentiment parfois que le réalisateur en fait trop, en particulier dans la relation mère autoritaire et fils soumis, ou encore dans la révélation finale. On peut aussi se laisser aller, moi je trouve, au charme, un peu suranné, de l'atmosphère dans cette petite ville de province, de l'histoire un brin mélancolique de Vincent et surtout de Rosalie. La fin est celle d'un conte. Vincent, Aude et Rosalie voient comme un chemin se dessiner devant eux sur le sable d'une plage en hiver, sous un ciel gris très doux.
Oui, moi j'ai bien aimé aussi ce film. Je crois que... Oui. Il est à voir. Alors, tout à fait différent, toi Jean, tu voulais nous parler d'Un monstre à mille têtes.
Oui, Un monstre à mille têtes, hein, un film mexicain de Rodrigo Plá. Bien, Françoise Lau, tout à l'heure, a évoqué un homme luttant contre le monstre à mille têtes qu'est le nazisme. Ici, c'est une femme qui va affronter le monstre des compagnies d'assurance médicale. Quelque part, dans une ville du Mexique, un homme se meurt du cancer. Son épouse, Sonia, qui cherche à lui obtenir un traitement d'urgence, fait face à une administration médicale fuyante, mise dans une situation dantesque qui semble même dépasser les interlocuteurs de la femme et où apparaît la position absurde des compagnies d'assurance dans le système de santé. En désespoir de cause, Sonia sort inopinément un pistolet et entreprend d'accélérer les procédures par la menace. Le drame médical devient dès lors un fait divers qui, au bout de la course, aura duré 24 heures. La première qualité du film du Mexicain Rodrigo Plá est de ne pas construire le monolithe annoncé qui nous assommerait de cette thèse entendue, mais d'en faire un film humain. Le récit objectif de ce moment fatal où la colère trop longtemps contenue du citoyen lambda se fracasse contre les murs sans vie de la dite institution. Sonia, aidée de son fils, va remonter la chaîne de décision de la compagnie d'assurance et si tous sont partie prenante de la société qui a permis les aberrations comptées dans le récit, aucun ne saurait reconnaître de réelles responsabilités sur quelque chose qui s'est développé bien au-dessus d'eux au point de devenir inextricable. C'est bien sûr cette désespérance, mais aussi cette humanité qui fait tout le prix de ce film.
Oui, je crois que Rodrigo Plá, c'est vraiment un cinéaste à suivre. Hein. Très fort.
Absolument. Ouais.
Toi, Françoise, tu veux l'autre Françoise Wisloski nous parler de Dégradé, que je n'ai pas vu du tout. Voilà.
Alors, Dégradé, c'est un film engagé, plein d'humour, et réalisé par deux frères jumeaux palestiniens, Arabe et Tarzan Nasser. Il se passe à Gaza, dans un salon de coiffure pour dames. D'où le nom de Dégradé, un style de coupe.
Ah d'accord, voilà. C'est ça.
C'est aussi une métaphore sur la dégradation de la situation. Donc ce salon, c'est un espace féminin au sein d'une société patriarcale, un petit coin de paradis dédié à la beauté et au plaisir, dans un monde extérieur en plein chaos, car il se trouve précisément en face d'un lieu d'affrontement. Toute une journée, une douzaine de clients d'origine et de classe sociale vont s'y retrouver coincés. Tandis qu'à l'extérieur, les hommes s'affrontent et qu'on entend le bruit et la fureur des tirs et des voix, c'est très impressionnant, les personnages féminins expriment leurs peurs, leurs joies, leurs problèmes quotidiens, les relations amoureuses, leurs opinions. Les frères Nasser ont reçu des applaudissements debout lors de la projection du film à la Semaine de la Critique à Cannes en 2015. Ils ont dit avoir voulu parler de la vie en s'éloignant des sujets les plus médiatisés comme le conflit israélo-palestinien. Mais ce huis clos où ils réussissent à nous faire rire plus d'une fois est un symbole de la situation de tous les Gazaouis qui regardent le monde extérieur sans pouvoir en sortir.
D'accord. C'est un film qui donne envie d'aller
voir. Il va bientôt sortir.
Le 27 avril.
Il sort bientôt.
Ouais. Ben, moi, je voudrais parler de Kylie Blues. C'est un premier film d'un jeune cinéaste chinois de 27 ans, Bigan. S'agit-il vraiment d'un coup de cœur? Disons plutôt qu'il s'agit de signaler l'arrivée d'un OCNI, un objet cinématographique non identifié, qu'on a envie de désigner aux gens en disant « C'est très curieux, ça sort Ça sort complètement des clous, faut pas manquer ça. Bon, déjà, bon, on comprend qu'il n'y a pas de scénario. Il y a juste un petit fil rouge, un certain Chen qui travaille dans un dispensaire de santé de la petite ville de Kaili. Il a un frère avec qui il ne s'entend pas et qui a lui-même un fils, Wai Wai. Ce père de Wai Wai, qui n'aime pas son fils, veut le vendre. Il paraît que c'est une ancienne coutume à Kaili. À la fureur de Chen, qui adore son neveu. Et voilà qu'un jour, Wai Wai disparaît et Chen se lance à sa recherche. Jusque-là, ça va. Mais ensuite, le road movie dans lequel on se croyait parti se disloque complètement, se dissout en une sorte de matière filmique continue d'une liberté totale, dans laquelle il vaut mieux éviter de rechercher des repères parce qu'il n'y en a pas, et que la seule solution consiste à se laisser aller. Le fil rouge initial s'est entortillé en une pelote poétique inextricable où les temps, les choses se mélangent sans scrupules, l'ensemble aboutissant dans l'entonnoir d'un extraordinaire plan séquence de 45 minutes où la caméra, sorte d'oiseau dégagé des servitudes de la pesanteur, vole au-dessus d'un sentier à la suite de Chen, le lâche pour prendre une autre route, une autre histoire, finit quand même par le retrouver, le but initial de toute cette épopée étant oublié sans qu'on s'en soucie vraiment, puis retrouvé quand on s'y attend le moins. Bon, cet étrange Okni est à voir, mais ne me faites pas de reproches. Si vous y allez, je vous aurais prévenu. Bon, je crois qu'il est venu le temps de rendre l'antenne. Merci aux deux Françoises et à Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et que nous invitons à rejoindre notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 26 mai de 13h15 à 14h et qui sera consacrée à une revue du Festival de Cannes. Mais comme je l'ai dit en commençant, nous vous donnons rendez-vous pendant tout le festival lui-même, ou pendant tout le festival, ou comme l'an dernier, nous tiendrons à 12h une chronique quotidienne de 3 minutes sur les films de la compétition officielle.